Ok, pour moi, c'est la première fois que je donne un cours. Première fois de toute ma vie. Jusque-là, c'était moi qui étais assis et écoutais un professeur. Donc, s'il vous plaît, indulgence, indulgence, indulgence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Yannick. C'est une blague, bien sûr. Mais ouais, c'est ça. C'est un gros sujet. On va essayer de couvrir ça. Qui est en train de lire le livre en ce moment? Ok, super. Est-ce que vous êtes rendu au chapitre qu'on va étudier ce matin? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Non? Vous allez le lire après? Donc au moins, si vous avez des questions, vous lirez le livre. Ok, je fais des blagues un peu. Super, bon, écoutez, on va commencer. Aujourd'hui, le but de ce cours, c'est de comprendre la providence de Dieu dans l'Ancien Testament. Pas plus, pas moins. Vous pouvez vous imaginer qu'en une heure, il va falloir aller un peu vite. Mais juste pour ça, j'aimerais savoir qui a déjà lu entièrement l'Ancien Testament. Ok, ça c'est bon. Qui l'a déjà lu de se dire, ok, je commence par Genèse et je lis la totalité en suivant les livres. Ok, wow, bravo. Est-ce que vous connaissez la structure du livre de l'Ancien Testament, pardon, c'est pas du livre, des livres. Oui, vous connaissez. Dans mes notes, vous voyez que j'ai un peu illustré ça sur ce deux points. On peut soit classer les livres par structure, donc le Pentateuque, les livres historiques, les livres prophétiques et poétiques, et après les prophétiques avec les grands et les petits prophètes, ou alors par chronologie. Parce que vous savez, ce n'est pas forcément de manière très chronologique de la manière dont on a nos Bibles aujourd'hui. La structure de la Bible, c'est plus par livre, Pentateuque, historique, poétique, prophétique. Alors que la structure chronologique, elle est plus l'histoire des patriarches, avec Abraham, Isaac et Jacob et Noé et tous les patriarches. Puis après, il y a un peu un livre clé qui s'appelle l'Exode, qui est juste là pour nous montrer aussi toute la directive que Dieu va avoir pour son peuple. Mais après, il y a la conquête du pays promis, le temps des juges, le temps des rois, la déportation à Babylone. Puis après, il y a le retour, où là, on a des livres fabuleux comme Néhémie, Esdras, qui sont vraiment magnifiques et qui nous montrent l'attente du Messie qui arrive. Et les prophètes sont un peu partout dans toutes ces périodes que j'ai citées. Donc, j'aurais pu amener le cours de plein de façons différentes pour parler de la providence de Dieu à travers l'Ancien Testament. Ce que j'ai un peu choisi, c'est de voir les thèmes que Piper soulève dans son livre et de voir comment ces thèmes-là qui ressortent dans l'Ancien Testament peuvent s'appliquer à notre vie. Donc, dans les notes que je vous ai données, et vous avez un peu ce titre qui commence par des trois petits points. Et en fait, le début de la phrase commence par le but de la providence de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est tous les points qu'on va voir par la suite. Donc le premier point, c'est de nous faire connaître son nom. Dieu, un de ses buts dans l'Ancien Testament, c'est de nous faire connaître son nom, de nous faire connaître qui il est. Et ça, on le voit dans notamment Exode chapitre 3, versets 13 à 15, où Dieu va dire « Je suis celui qui suis ». Je lis le texte. « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Ici, le contexte de ce passage, c'est que Dieu est en train de discuter avec Moïse. Et le dialogue a pour but de nous révéler le nom de Dieu. Et ça, c'est pour qu'on puisse comprendre que Dieu est un être absolu et unique. En hébreu, c'est Yahvé. Yahvé, c'est son nom. Il est construit à partir du verbe hébreu « je suis ». C'est pourquoi dans certaines versions de la Bible, on a écrit en majuscule, en grande majuscule, « je suis celui qui suis » ou « je suis » ou même « l'éternel ». Ça, c'est écrit en majuscule. Peut-être vous avez vu ça ou peut-être vous avez ça dans vos Bibles. Son nom, donc le nom « je suis » et toutes ces variantes, apparaît 6800 fois dans la Bible. Vous vous rendez compte ? C'est beaucoup, non ? Et à chaque fois, c'est pour nous rappeler que Dieu est un être absolu et unique. Et ça, c'est vraiment un élément clé à comprendre. Piper, il va donner 10 aspects qui sont liés à sa signification. Et quand on prend le temps de méditer sur la personne de Dieu, quand on prend le temps de méditer sur son nom, c'est vraiment stupéfiant. C'est vraiment « wow, sérieusement ?» Est-ce que vous avez déjà médité sur le fait que Dieu n'a pas de commencement ? C'est fort, n'est-ce pas ? Nous, on a tous un commencement. Même dans ce qu'on fait, il y a un commencement. Le cours que j'ai commencé. Le cours n'a pas duré depuis toute éternité. Nos vies ont eu un commencement, alors que Dieu n'a pas de commencement. Pourquoi ? Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est un être absolu et unique. Et s'il n'a pas de commencement, il n'a aussi pas de fin. Il n'a pas de moment où il va arrêter d'être Dieu. Il ne va pas partir en vacances. Et ça, c'est une réalité qui est forte. Piper continue avec le troisième point, c'est la réalité absolue. Dieu est la réalité absolue. Il n'est pas dans une réalité décalée de la nôtre. On ne vit pas dans une réalité différente que celle de Dieu. Mais Dieu ne vit pas dans notre réalité, mais c'est plus nous qui vivons dans sa réalité. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Il est la réalité absolue. Il est indépendant. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de nous. Dieu est Dieu. Il se suffit à lui-même. Tout ce qui n'est pas lui est secondaire et dépendant de lui. C'est dans la même logique. Tout ce qu'on voit, toute la création, toutes les choses magnifiques ne sont rien en comparaison de lui. Ésaïe 40, verset 17 dit « Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est unique, parce qu'il est la réalité absolue, il est constant. Il ne change pas. Quelque chose de parfait reste parfait. Il ne va pas s'améliorer ou il ne va pas diminuer. Il est lui-même la norme de tout ce qui est juste, vrai et beau. Nous, on émet souvent pas mal de jugements. Tiens, ça c'est moins beau, ça c'est vraiment magnifique. Mais non, Dieu ne change pas, Dieu est la norme. Comme j'ai dit, on vit dans la réalité de Dieu. Personne n'est lié, pardon, il n'est nié par aucune contrainte. Tout ce qu'il veut faire, il le fait. Il est la personne la plus importante et précieuse qui soit. C'est beau, n'est-ce pas, quand on se pose et qu'on réfléchit à ça. Quelle est la personne de Dieu ? Tout ça découle de son nom, le « je suis ». Je suis celui qui suis. Il n'y a personne d'autre que moi. Et ça, c'est vraiment beau. Une autre réalité qui découle de son nom, c'est que Dieu vient nous sauver. Et dans la Genèse, on voit que Dieu a pris le temps de se choisir un peuple avec tous les descendants d'Abraham et comment la manière dont il appelle Abraham. Et dans l'Exode, il va prendre le temps de faire connaître son nom et de dire, en fait, mon nom est celui qui va venir sauver. Dans mon nom, il y a une puissance salvatrice. Et c'est dans Exode que Dieu révèle son plan. Dieu vient sauver son peuple pour que son peuple puisse le glorifier en retour. Un extrait du livre de John Piper. John Piper dit « Le moment que Dieu a choisi pour révéler son nom n'est pas une simple coïncidence. Dieu vient pour sauver. Israël voudrait savoir qui est cet être sauveur. De fait, Dieu répond « Dis-leur que mon nom est Yahweh et clarifie bien ce que cela signifie. Je suis absolument libre et indépendant et je choisis librement de sauver mon peuple. La liberté de mon être et celle de mon amour sont un. » Je trouve ça fabuleux quand on y réfléchit un peu, de se dire « Ok, Dieu dans l'Exode prend le temps de dire à son peuple « Je suis ce Dieu qui vient sauver. » Et je trouve ça encore plus fabuleux quand on comprend que dans l'Ancien Testament, les prénoms, les noms ont des significations. Dieu sauve, Dieu vient sauver. C'est une signification. Elle appartient à quel prénom, d'après vous ? Josué, j'ai entendu ça quelque part, c'est super, Josué, mais aussi Jésus, parce que Josué c'est Yehoshua, désolé pour la prononciation, je ne suis pas prof d'hébreu ou grec, et Jésus en fait c'est une contraction de ce nom, Yehoshua, Jésus c'est Yeshua, et leur signification à tous les deux c'est Yahvé sauve. Alors vous comprenez que, vous voyez peut-être déjà où je veux en venir, mais le plan de Dieu dans sa providence est que Dieu dit à son peuple « Je viens pour sauver » dans Exode. Mais en fait, ce n'est pas juste dans Exode qu'il vient sauver, c'est tout à travers toute la Bible. Parce que le point culminant de la Bible en la personne de Jésus montre que Dieu avait déjà son plan et Jésus veut dire « Dieu sauve ». N'est-ce pas magnifique ? Honnêtement, quand je vois ça, je fais « Wow, la providence de Dieu est immense !» Et mes amis, si elle a commencé dans l'Ancien Testament et qu'elle couvre tout l'Ancien Testament pour arriver à la personne de Jésus, elle continue pour nous aujourd'hui encore. Dieu vient sauver. Le plan de Dieu pour sauver l'humanité n'a pas changé depuis la chute. Et c'est tellement beau. J'aimerais tirer juste deux applications pour nous en connaissance de ce point que Dieu vient pour sauver et révéler son nom. Dieu veut se faire connaître à nous encore aujourd'hui. Ça, c'est une application pour nous. Et Dieu veut qu'on prenne conscience de qui il est vraiment. Grosse invitation pour vous ce matin, méditez sur la personne de Dieu, sur qui est Dieu. Dieu veut sauver du péché encore aujourd'hui par l'œuvre de Jésus accompli sur la croix. Tellement beau de voir ça. Ok, je passe à mon deuxième point. Le but de la providence de Dieu est de se faire connaître au monde entier. Dieu tient non seulement à ce que Israël sache qui il est, mais il veut aussi que Pharaon et le monde entier sachent qui il est. Dans Exode 11, verset 9, il dit « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Dieu est en train d'endurcir le cœur de Pharaon. Mais pourquoi ? Dans quel but ? Exode 7, verset 5, « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Un seul but pour Dieu, de multiplier à 10 reprises les plaies d'Égypte, de faire que tous connaissent son nom, que tous puissent connaître qu'il est Dieu, qu'il est l'Éternel. Je vous ai donné quelques exemples, les grenouilles, les mouches et toutes les autres plaies. Et au moment de la délivrance finale vers la mer Rouge, où Dieu dit « Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Par le biais des Égyptiens, Dieu tient à révéler la puissance de son nom. Il envoie les 10 plaies contre l'Égypte pour montrer qu'il est bien cet être absolu et unique qui détient toute puissance, et même au-dessus de leur divinité. Dans Exode chapitre 8, versets 14 et 15, on voit un moment où les magiciens qui jusque-là reproduisaient les plaies qui s'abattaient sur l'Égypte ne peuvent plus reproduire les plaies que Dieu est en train de mettre. Et en fait, à ce moment-là, les magiciens disent à Pharaon, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment l'Éternel qui abat les plaies sur notre pays. C'est ça le but de Dieu. Dieu veut que tous connaissent la puissance de son nom. Si on avance dans l'Ancien Testament, on arrive avec les livres comme Josué et Juges, où on arrive sur la conquête de Canaan. Pour Dieu, l'Égypte n'est pas assez grand, ne représente pas assez de monde pour que Dieu veut se faire connaître. Dieu veut se faire connaître au monde entier. Et on voit que ça dépasse les frontières. Quand le peuple d'Israël arrive dans le pays promis, après 40 ans, là, l'Arabe se lie d'amitié avec des espions d'Israël. Et voici ce qu'elle dit aux espions. En Josué, chapitre 2, versets 9 à 11. « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. » Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu dans les cieux et en bas sur la terre. Lorsque Dieu a déclaré à Pharaon qu'il a laissé subsister afin que l'on publie mon nom par toute la terre, ça c'est ses paroles, on peut croire qu'il avait la foi de Rahab et de tout son peuple en tête. En fait, c'est absolument dingue quand on y réfléchit. La renommée de Dieu. Les 10 plaies ont fait ressentir une renommée parmi tout un peuple. Tout un peuple est là en train de se dire, il y a un peuple qui nous arrive dessus et ils appartiennent au Dieu des cieux et de la terre. On ne pourra rien contre eux, ils ont tous peur. Dieu avait pour but d'étendre sa propre réputation et de se faire connaître son nom parmi les nations, de sorte que sa réputation attise la crainte de son nom. Bien plus tard, dans les rois, Dieu fait résonner à travers le monde entier sa renommée, encore une fois. Dieu donne une sagesse telle à Salomon, qui est un roi d'Israël, fils de David, et de telle manière que tous les pays voisins sont stupéfait, complètement ébahi, et personne n'y croit. La reine de Saba vient pour éprouver la sagesse de Salomon, justement, dans ce but, parce qu'elle avait entendu la renommée qu'il possédait à la gloire de l'Éternel. 1 Roi, chapitre 10, verset 1. Et dans sa providence, Dieu a donné à Salomon de la sagesse et une grande réputation afin que le monde sache que Dieu bénit son peuple. Et particulièrement ici, son roi. Après avoir vu et éprouvé la sagesse de Salomon, la gestion de son palais, tout ce qu'il avait entrepris, la gestion de ses serviteurs et la place qu'occupait la maison de l'Éternel au sein du peuple, la reine de Séba, le texte nous dit qu'elle eut le souffle coupé. Et voilà sa conclusion. 1 Roi 10, verset 9. « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Dans sa providence, Dieu permet aux autres nations de voir que Dieu est un Dieu qui bénit, un Dieu qui accorde la bénédiction. Dieu n'est pas un Dieu qui restreint ses enfants ou qui les empêche de prospérer, mais au contraire, c'est un Dieu qui bénit abondamment, au-delà même de tout ce que nous imaginons. Je trouve ça, encore une fois, merveilleux. Mais une histoire qui m'a particulièrement frappé, c'est l'histoire de Jonas, dans les prophètes. De voir à quel point Dieu veut se faire connaître parmi les nations, dans l'Ancien Testament, Jonas est peut-être un des meilleurs exemples. Vous connaissez l'histoire de Jonas ? Jonas, prophète de l'Éternel. Dieu lui dit, pars à Ninive, va prêcher la repentance à Ninive. Ninive, des personnes païens, en dehors du peuple de Dieu. Jonas sait que le nom de Dieu, c'est Dieu sauve. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Direction opposée, il fuit à Tarsis, parce qu'il ne veut pas que Dieu sauve les Ninivites. À ce moment-là, Dieu, il aurait pu juste dire, OK, je change de prophète. Non, dans sa providence, et c'est ça qui est magnifique, dans sa providence, Dieu va aller chercher Jonas et va l'amener à Ninive pour lui montrer que, oui, Dieu veut sauver toutes les nations, que Dieu veut sauver même ce peuple que Jonas déteste. Je trouve ça juste incroyable. L'histoire de Jonas nous montre deux choses. La première, c'est que Dieu, dans sa providence, avait prévu de sauver des hommes du monde entier avant même la venue de Jésus. C'est beau, hein ? La seconde est que Dieu, dans sa providence, avait tout orchestré pour que l'histoire de Jonas nous fasse penser à Jésus, qui lui avait aussi passé 3 jours dans le sein de la terre, afin que toutes les nations soient sauvées par lui. Juste waouh ! Juste waouh de la providence de Dieu ! Dieu avait un but de sauver en Exode, mais pas sauver non seulement le peuple juif, Israël, mais aussi le monde entier. Et ça, ça s'accomplit en Jésus, et ça s'accomplit encore aujourd'hui. Depuis toute éternité, le plan de Dieu est de voir des hommes et des femmes de toute nation parvenir à la connaissance de son nom, y compris nous. Dieu avait tout orchestré pour que le monde connaisse la puissance de son nom, la crainte de son nom, la bénédiction qui découle de son nom, mais aussi de goûter à la grâce qu'il y a de son nom. Je trouve ça juste magnifique. Application pour notre vie, rapidement. Dieu a depuis toute éternité le projet de sauver des hommes et des femmes de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. C'est grâce à ce projet que nous connaissons la grâce pour nous ici au Québec. Parce que Dieu avait prévu dans sa providence que des personnes allaient parcourir le monde entier jusqu'ici pour qu'on puisse connaître la grâce de son nom. Dieu n'a pas seulement agi seul pour se faire connaître. Dieu, dans sa providence, encore une fois, a prévu d'enrôler des personnes, d'appeler des personnes à partir, à quitter et aller partager l'évangile au monde. Je trouve ça tellement incroyable, surtout pour moi qui suis missionnaire, qui ai quitté mon pays. Mais je trouve ça tellement magnifique de voir que ça fait partie du plan de Dieu, de la providence de Dieu depuis toute éternité. Incroyable. Ok, troisième point. Le but de la providence de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est d'être glorifié, adoré et être la source de toute joie. Dieu veut être glorifié. Jusque-là, on a beaucoup parlé que Dieu voulait faire connaître son nom. Mais faire connaître son nom a pour un but, a un but bien précis, être glorifié. À 2 reprises, il va l'attester clairement dans Exode 14, verset 4 et Exode 14, versets 17 et 18. J'en fais la lecture. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Vous avez remarqué, à 3 reprises, faire éclater ma gloire. En fait, c'est littéralement « je serai glorifié ». Cette construction passive, « être glorifié », ne dit pas qui est la personne qui va glorifier. Il y a une raison, il n'y a aucune raison de la limiter à Israël ou aux Égyptiens. Dieu avait spécifié son but dans Exode chapitre 9, verset 16, « que mon nom soit proclamé par toute la terre ». On peut donc en conclure que son objectif est d'être glorifié s'étend à toutes les personnes de la terre, à toutes les personnes qui connaissent son nom. Mais être glorifié, ce n'est pas le but final de Dieu. Parce qu'en cherchant la signification de glorifier, j'ai trouvé ceci. Glorifier, c'est honorer quelqu'un en proclamant sa gloire. C'est célébrer quelqu'un. Dieu ne veut pas juste être glorifié comme on pourrait célébrer ou glorifier quelqu'un le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire, c'est ce qu'on fait. On se réunit pour faire la fête de la personne. Mais Dieu veut être un peu plus que ça. Veut être un peu plus qu'une fois par an, une fois par semaine, le dimanche matin peut-être. Non, Dieu veut être profondément adoré. C'est-à-dire qu'il veut qu'on ait la crainte, une crainte saine de son nom, mais aussi qu'on puisse l'aimer profondément. C'est ça, adorer. Et il est possible qu'un non-croyant glorifie Dieu. Vous l'avez certainement noté quand j'ai parlé de Rahab et son peuple. Le peuple entier est en train de rendre gloire à Dieu, juste parce qu'il dit « On sait ce que tu as fait au peuple d'Israël, la manière dont tu l'as sorti. » Ils sont en train de rendre gloire à Dieu pour ça. Mais est-ce qu'ils sont pour autant l'adorer ? Non. Non, non. Ce n'est pas un peuple qui est en train d'adorer Dieu. Vous voyez la différence ? Bien sûr, on peut et adorer et glorifier Dieu. Et c'est le but. Dieu veut être et glorifié et adoré. Et Dieu veut être aussi la source de toute joie. Dieu veut qu'on puisse vraiment saisir la joie qu'il y a dans son nom. Pour ça, j'ai un peu une petite image. Quand il y a un rabais dans les magasins pour un aspirateur, honnêtement, si vous avez déjà un aspirateur à la maison, ça ne vous fait rien. Mais si vous avez besoin d'un aspirateur, ah, là, il y a une petite joie quand même de se dire, ah, super, il y a un rabais. Dans la même lignée, Dieu, dans sa providence, permet que nous éprouvons le besoin d'être sauvés. Dans sa grâce, il nous sauve afin que nous faisions de lui la source de toute notre joie. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le sens où, quand on éprouve le besoin d'être sauvé et qu'on voit un Dieu sauveur, c'est une merveilleuse nouvelle pour nous. Et ça nous permet de le glorifier, de l'adorer et de faire de lui toute notre joie. De voir que, suite à notre salut, tout ce qui y découle est pure grâce et pure joie qui vient de lui. Bien si j'ai bien aimé une citation de Piper. Le peuple acquiert le salut, et Dieu l'adoration. Israël y gagne la joie, Dieu y gagne la gloire. C'est ça le but de Dieu. Dieu veut juste qu'on puisse s'émerveiller de son salut et l'adorer et glorifier en retour. Les psaumes nous poussent à crier à Dieu des cris de joie. Que toutes les nations se réjouissent. Je lis un extrait de John Piper. Cette crainte n'est pas une crainte paralysante. Elle ressemble davantage à une foi tremblante, comme celle d'un enfant quand son père le saisit hors des courants agités de la mer pour le porter dans ses bras. Il frémit et rit tout à la fois. C'est aussi une image pour nous montrer quelle est la place de l'adoration, quelle est la place de la joie qu'on peut avoir dans son salut, quelle est la place de la glorification. Quelques applications encore pour nos vies. Plus nous prenons conscience que nous avons besoin de Dieu, plus cela va nous pousser à l'adoration. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes des adorateurs ? J'imagine que si vous êtes des adorateurs, c'est que vous êtes aussi conscience de votre péché et que ce que Dieu a opéré dans sa grâce. Notre question, comment est-ce que vous fêtez une fête d'anniversaire ? Comment vous fêtez la victoire des Canadiens de Montréal quand ça arrive ? Et la logique que je veux amener derrière ces deux questions, c'est à combien plus forte raison on devrait adorer Dieu de tout notre cœur, de de toute notre âme, de toutes nos forces. Qu'on ne devrait pas juste se contenter d'une petite louange le dimanche matin, mais que ça devrait être un jour de fête où on est expressif dans notre louange, où on vient adorer Dieu quotidiennement dans nos cultes personnels. Tout ça, c'est quand on comprend la providence de Dieu, et dans l'Ancien Testament, mais aussi qui s'étend jusqu'à nos vies. Ok, quatrième point. Ça va jusque-là? Oui? Ok. Je prendrai les questions peut-être à la fin, ça vous va. Le but de la providence de Dieu dans l'Ancien Testament est de connaître la place de la foi. Pour ça, on peut aller directement dans les héros de la foi, dans les héros de la foi qui sont nommés dans Hébreux 11 et qu'on les voit pour une grande partie dans l'Ancien Testament. Le but de la providence de Dieu dans l'Ancien Testament est aussi de nous montrer en fait quelle est la place. Comment la foi intervient dans la providence de Dieu. Abraham est vraiment le père des croyants et un exemple de foi, et on peut vraiment aller le voir pour en tirer des explications sur la providence de Dieu, pour expliquer la foi. Abraham, c'était un païen. En fait, Dieu, il a librement choisi Abraham pour aucune raison. On ne connaît pas son passé, c'est pas ce qu'il a fait. C'est un homme insignifiant, juste Dieu l'a choisi. Dieu l'a pris et a fait de lui le père d'une multitude. C'est juste incroyable de voir que c'est Dieu qui a la source de choisir et pas juste Abraham qui a commencé, qui a cru, qui a choisi, qui a eu foi en Dieu et que Dieu l'a béni derrière. On va voir que c'est un peu lié, même beaucoup lié et entremêlé, mais le point de départ, c'est Dieu choisit Abraham. On a ce fameux verset dans Genèse 15, verset 6. « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » On voit que la foi n'est pas ce qui motive le choix de Dieu, mais elle en est plutôt la réponse. Intéressant et important de comprendre ça. On voit que la foi n'est pas ce qui motive le choix de Dieu, mais elle en est la réponse. Abraham crut en Dieu après avoir reçu toutes ses promesses. Parce que le verset que je vous ai lu, c'est Genèse chapitre 15. Mais les promesses que Dieu a faites à Abraham sont Genèse chapitre 12. Donc Abraham crut en Dieu après avoir reçu toutes les promesses. Mais le fait que la foi d'Abraham ne motive pas le choix de Dieu ne signifie pas que la foi du peuple de Dieu et le secours divin qu'il expérimente ne sont pas liés. Dès le début de son alliance avec Abraham, l'Éternel établit une corrélation entre l'obéissance de la foi et un bon nombre de bénédictions dont nous jouissons. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ça, c'est ce que Dieu dit à Abraham en Genèse 22. L'obéissance est le fruit de la foi d'Abraham. Ce que l'apôtre Paul appelle l'obéissance de la foi ou l'œuvre de la foi. Un grand nombre de bénédictions inondent le peuple de Dieu grâce à cette obéissance. Donc Dieu choisit librement et sans contrainte et en réponse, l'homme place sa foi en Dieu. Et Dieu répond souvent à la foi par la délivrance. Vous voyez comment c'est imbriqué, comment tous ces sujets sont étroitement liés, mais que Dieu, dans sa providence, permet de choisir Abraham. Abraham place sa confiance et Dieu va le délivrer, va lui donner une postérité qui est immense par la suite. Dieu répond souvent à la fois par la délivrance. On pourrait citer, pour appuyer ça, Daniel qui est secouru dans la fosse aux lions sans aucune blessure. Tout ça parce que il eut confiance en Dieu. On pourrait citer d'autres, les fils de Ruben, Josaphat, Ozias, Jotham, Je vous ai mis les références dans les notes, il me semble. Donc, on voit bien que Dieu répond à la foi par la délivrance. Quand des hommes placent sa foi en lui, Dieu accorde la délivrance. Mais le contraire est aussi vrai. Le jugement est souvent la conséquence de l'incrédulité et du péché. Dans Josué 23, verset 16, il est dit « Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. » Jérémie 15, verset 6, « Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. J'étends ma main sur toi et je te détruis. » Et encore plein d'autres références. Dieu répond souvent à la foi par la délivrance et répond à l'incrédulité par le jugement. Néanmoins, un peu des exceptions toujours à ça, de manière de voir comment tout s'imbrique, mais le livre de Job et ainsi que d'autres passages clés nous montrent que Dieu, des fois, permet que ses enfants traversent de grandes afflictions. Donc, Piper dit ça, il ne les délivre pas toujours de l'affliction, mais délivre souvent à travers l'affliction. Ça va ? Je reconnais que ça, c'est c'est très dense. Désolé de ne pas pouvoir détailler plus ça en si peu de temps, mais je pense que j'ai essayé d'éclairer ça un maximum. Suite à ça, ce qu'on vient de voir, il y a une grande question. Pourquoi Dieu permet que certains ne croient pas ? Pourquoi Dieu permet que des centaines, voire des milliers, voire des millions de personnes meurent sans Dieu et vont en enfer ? Pour répondre à cette question, c'est l'apôtre Paul qui nous aide à y voir plus clair en s'appuyant sur l'Ancien Testament et particulièrement sur l'épisode avec le Pharaon. Romains chapitre 9, versets 14 à 18. Que dirons-nous donc ? Il tente de répondre à cette question. Donc, que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde ? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion ? » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Je mets une citation de Piper que je vous lis. « L'argument ultime de Paul pour accentuer le droit que Dieu possède d'agir en toute liberté, c'est-à-dire d'accorder sa miséricorde à qui il veut et d'endurcir qui il veut, est donc le but suprême dans sa manifestation de colère et de puissance, comme la défaite de Pharaon, est de faire connaître les richesses de sa gloire envers des vases de miséricorde. La libre justice de Dieu dans l'endurcissement de Pharaon souligne encore plus intensément la liberté de sa miséricorde envers les vases qui sauvent. Autrement dit, la providence de Dieu manifestée est finalement gouvernée non par la volonté de l'homme ou en réponse à ses efforts, mais selon l'intention divine de son autodétermination. Dieu est absolument libre. Il est qui il est. Il fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas les hommes qui lui dictent ce qu'il doit faire. C'est une réalité qui est assez dure, je trouve. On pourrait crier à l'injustice. Mais quand on prend conscience dans sa providence, que Dieu permet que des hommes iront mourir en enfer, nous révèle d'autant plus la grâce que nous avons, nous, aujourd'hui, de connaître ce Dieu qui est venu mourir sur la croix, payer pour nos péchés, pour nous éviter l'enfer. Parce que l'enfer est une réalité que Dieu prend soin de nous montrer, de nous faire voir par peut-être toutes les amies, toutes les personnes, peut-être les membres de nos familles qui ne croient pas. Mais cela nous montre juste la beauté de sa grâce et nous montre à quel point on va l'adorer pour l'éternité. La grâce de Dieu est juste incroyable. Et pour vous donner quelques applications, je ne sais pas comment dire ça, mais encouragement, c'est que nous devons persévérer à partager l'Évangile, à partager cette grâce. Puisque nous ne savons pas qui Dieu a choisi, alors on devrait aller courir dans les rues et dire « Jésus t'aime, Jésus t'a sauvé !» Imaginez que les élus de Dieu ont une petite tache sur l'épaule ici. Moi, le premier truc, le premier réflexe, c'est « Enlève ton t-shirt, j'ai besoin de voir un truc. » Mais le truc, c'est que Dieu n'a pas donné de signe. Alors, ça doit nous encourager et ça doit nous pousser à partager cet amour énorme que Dieu nous manifeste. On doit prendre conscience que tout cela nous dépasse et que, au fond, tout cela rend gloire à Dieu. De la même manière que la délivrance du peuple d'Israël par Dieu et envers Pharaon, nous montre, oui, c'est triste pour Pharaon, mais la réalité, ça nous montre toute la gloire que Dieu a par rapport à la délivrance qu'il accorde à Israël, un peuple esclave qui est délivré. Je trouve ça magnifique. J'espère que vous arrivez à saisir cette réalité-là et que vous arrivez à l'appliquer pour votre vie. Cinquième point. Le but de la providence de Dieu dans l'Ancien Testament est de connaître l'essence même du péché. On voit ce que la loi nous enseigne. Dans l'Ancien Testament, on a des passages comme Exode 20, où Dieu donne les 10 commandements. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est juste de faire? Et je vois qu'il me reste 5 minutes. On active. Jésus va dire en Matthieu 22, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Une question qu'on lui pose. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le but ultime de la providence de Dieu, c'est d'être adoré comme l'être absolu et unique. Il s'inscrit au centre de toute la loi. C'est pourquoi les deux premiers et le dernier sont centrés sur lui et exclusivement sur lui. Le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est-à-dire tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le deuxième, tu ne feras point d'image taillée, c'est-à-dire tu ne prendras pas autre chose pour Dieu. Et le dernier, c'est tu ne convoiteras pas. L'idée ici, c'est tu ne voudras rien d'autre, même qui appartient à ton prochain, parce que je suis suffisant. Parce que tu as déjà tout en moi. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Et tout ce qui se passe au milieu, les 7 autres, en fait, se réduisent par « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce que si tu l'aimes, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas le voler, etc. Dieu entend que ce soit sur la base de ces 3 ordonnances que les 7 autres soient respectés. Donc, d'après Piper, « Servez l'Éternel avec joie », psaume 100, verset 2, constitue un résumé de la loi. Seul ce genre de service joyeux témoigne du fait que Dieu est notre plus grand trésor et notre plus grand plaisir et notre plaisir le plus doux. Ainsi, au cœur même de la loi se niche l'objectif ultime de la providence de Dieu, à savoir le glorifier, l'adorer et de faire de lui toute notre joie. La leçon des livres des juges, je vais terminer par ça. La leçon des livres des juges nous montre très clairement la profondeur du péché de l'humanité, c'est-à-dire une désobéissance même de ses commandements. Piper dit « Le livre des juges, c'est comme se faire maculer le visage par la folie du péché, pendant que Dieu manifeste encore et toujours sa miséricorde, qui, elle, sera sans cesse oubliée. » Il y a un terrible refrain qui revient dans le livre des juges, et c'est à peu près celui-ci, il varie en fonction des passages. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Une des histoires qui est fabuleuse, qui nous montre ça, à quel point les juges, le peuple d'Israël va dans le péché et que Dieu fait grâce, c'est l'histoire de Gédéon. En dépit de la désobéissance d'Israël, Dieu envoie un ange vers Gédéon afin de recruter pour une grande mission salutaire. Le peuple a désobéi à Dieu, Dieu a envoyé le jugement et maintenant Dieu veut de nouveau sauver son peuple. C'est à ce moment-là que Gédéon arrive. L'Éternel lui dit « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors Gédéon est revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonne de la trompette. Et à ce moment-là, 32 000 personnes s'assemblent pour combattre les Madianites. Là, et là, on peut se dire, waouh, il y a tout un peuple qui s'est réveillé et qui va aller combattre son ennemi. Mais Dieu est en train de dire, non, ça ne va pas se passer comme ça. De 32 000 personnes pour un combat qui s'annonce rude, on va descendre à 300 personnes. 300 personnes, et c'est ces 300 personnes qui vont vaincre les Madianites. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a choisi de faire ça comme ça pour montrer sa gloire, pour montrer en fait même l'essence même du péché. Parce que l'essence même du péché, c'est en fait s'orgueillir de nos capacités. C'est de se dire que en fait, on n'a plus besoin de Dieu et que le Dieu qu'on veut, c'est nous. C'est l'histoire des juges. À chaque fois que les juges a détourné son regard de l'Éternel et a tourné son regard sur eux, Dieu a fini par envoyer le jugement. Parce qu'ils vivaient dans le péché, ils vivaient comme leur cœur le voulait, et ça les a amenés à leur ruine. C'est ça l'essence même du péché. Notre propre cœur, qui veut faire ce qu'il veut, qui veut être orgueilleux, qui veut être son propre Dieu. Alors que les deux premiers commandements et le dernier nous disent « Dieu seul est suffisant. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. » Application pour nos vies. Souvent, quand on lit l'Ancien Testament, on peut se dire « Ah, mais le chapitre d'avant, ils ont déjà fait cette même erreur. Ils n'ont rien appris, rien compris. » Mes amis, entre les chapitres, il y a des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, du temps qui se passe entre. Si on prend ça pour nos vies et qu'on fait un dézoom sur notre propre vie, peut-être on pourrait dire « Mais l'an passé, il a fait le même péché. Il n'a rien compris. » Voyez-vous, on doit constamment, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, se dire « Ok, Dieu est la source de toute ma joie. Je vais l'adorer. Je vais le glorifier pour ce qu'il fait. Peu importe les épreuves, peu importe les montagnes qui sont devant moi, je vais l'adorer, le glorifier. » Ça, c'est une application pour nos vies dans le livre des juges. Il me reste un dernier point, mais vous avez de la chance, ou pas, de m'avoir comme prof dimanche prochain. Donc, je vais garder ce point pour dimanche prochain. Dimanche prochain, je vais essayer vraiment d'être plus concis. Je peux prendre quelques questions en 5 minutes, si vous voulez. Pas de questions ? Avec plaisir. N'hésitez pas à lire le livre. Honnêtement, je ne fais qu'un survol du livre. J'ai pris la décision de juste essayer de... J'ai lu la section qui m'était attribuée et essayé de sortir les points que Piper voulait nous montrer. Donc c'est ça que j'ai pris comme plan. Mais lisez le livre et vous allez voir qu'il y a d'autres plans, d'autres points qui sont aussi importants et tout aussi beaux. Et Piper explique, je trouve, bien ça. Et si vous avez des questions sur des sujets bien précis ou des fois qui sont un peu piquants pour nous, vous en faites pas. D'autres passages, d'autres profs vont peut-être rentrer plus en détail sur ce genre de points. Ça vous va? Oh, une question, oui. Ouais, alors c'est... Oui, alors c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à ça. Ok, la question est si Dieu permet que certaines ne croient pas, c'est que ça veut dire qu'il nous donne aussi le privilège de nous choisir, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, d'avoir le libre arbitre, de pouvoir choisir Dieu ou pas, c'est ça? C'est une bonne question. Ce que j'ai essayé de soulever, c'est que, avec le passage d'Abraham, c'est que la foi, donc notre réponse, notre choix, parce que oui, il y a un choix, oui, il y a une réponse à donner, que notre choix découle de ce que Dieu nous a appelé. Dieu a appelé Abraham, et c'est après que Abraham a cru. De la même manière, Dieu nous appelle à être ses enfants, et par la suite, on répond. Ce que moi, je crois, c'est que quand Dieu appelle, il n'y a pas autre réponse que « Oui, Seigneur, je viens ». Donc, la question pourrait être plutôt « Ok, pourquoi Dieu appelle certains et pas d'autres ?» Et là, c'est toute la question de la providence de Dieu, que Dieu permet que des hommes vont mourir en enfer, malheureusement, pour faire éclater sa gloire de ceux qui vont le sauver pour l'éternité. Oui. Oui. Absolument. T'as absolument. Honnêtement, il y a aucun problème avec ce que tu viens de dire. Ce que je vois. Moi, je mets l'accent aussi sur ce que Dieu fait dans ma propre vie et du choix que j'ai eu. La réalité, c'est que quand j'ai compris la grâce que Dieu voulait m'offrir, je serais fou de dire non. Et c'est aussi toute la tension qu'il y a, peut-être on pourrait discuter de ça après si tu veux, mais la tension entre ce que Dieu veut. Est-ce que la volonté de Dieu s'accomplit tout le temps? Oui, mais dans la Bible, il y a ce verset que Dieu veut que tous soient sauvés. Ok, alors pourquoi tous ne sont pas sauvés? C'est ça, on peut en discuter, c'est tout le thème de la providence de Dieu, c'est aussi ça qui fait la beauté. On peut croire plein de choses, il y a pas de souci, tant qu'on vit dans l'unité et qu'on s'aime, il n'y a aucun problème avec tout ça. Amen, moi aussi. Oui. Je sais que c'est un sujet épineux. Peut-être on peut se voir après, on peut discuter de ça. Si d'autres veulent, on peut jaser ensemble, il n'y a aucun problème. Je suis vraiment ouvert à la discussion et c'est un sujet que j'aime aussi. Mais il faut reconnaître que Dieu seul détient tous les secrets. Et que un jour on comprendra tout, je vous rassure, mais ça ne sera pas ici dans ces locaux de l'espoir. Que le Seigneur vous bénisse.